Tu crois qu'ils vont m'aimer ? Pourtant, elle a peu de raisons d'en douter. Nous sommes en 1974, elle a 40 ans de carrière au sommet derrière elle, mais comme à chaque fois qu'elle s'apprête à monter sur scène, Ella Fitzgerald demande à l'un de ses musiciens « Tu crois qu'ils vont m'aimer ?» Ce matin, Pop & Co et Pop & Ella Fitzgerald ou une voix qui réconcilie l'Amérique. Il était une voix en Amérique. C'est d'ailleurs le titre de la biographie que Steven Gézovanier vient de lui consacrer. Avec plus de 250 disques, Ella Fitzgerald est peut-être l'exemple unique qui incarne et chante la joie à un tel niveau. Tous les artistes vous diront qu'interpréter le bonheur est l'un des trucs les plus compliqués qui soit, d'autant que c'est souvent dans la tragédie qu'on acquiert une certaine crédibilité. Pendant plus de 60 ans, Ella Fitzgerald a su se réinventer sans cesse, en enregistrant des morceaux enlevés autant que des ballades, où sa voix se déploie comme un ruban. Au générique de ce Pop & Ella, ce matin, on croise donc Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Cole Porter, Norman Granz, que des hommes qui ont changé le cours de la musique mondiale, et elle, en majesté, qui déclarait « La seule chose qui soit meilleure que chanter, c'est chanter encore plus ». Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Dites-moi pourquoi la vie est belle. Dites-moi pourquoi la vie est gaie.
Paris, été 1963.
Dites-moi pourquoi.
Elle est à l'Olympia.
Qu'est-ce que c'est?
I goofed it anyway.
C'est tout comme elle vient de dire. Elle fera groover le truc, quelle que soit la langue et quoi qu'il arrive. Ce morceau-là, c'est l'un de ses classiques dont elle livrera une version définitive. On l'écoutera, mais il faut rester sur France Inter jusqu'à midi pour ça. Parce qu'évidemment, ça n'a pas commencé comme ça. La première fois qu'elle est sur scène, le public l'accueille avec des « foutez-la dehors, virez-la ». Elle est fagotée comme l'as de pique, toute seule, sur la scène de l'Apollo Theater de Harlem. Nous sommes en novembre 1934. Ella Fitzgerald, 17 ans, participe à un concours amateur et...
Oui ?
Bonjour, votre invité est arrivé.
L'invité de Pop & Co s'appelle Steven Gézovanier, auteur de Ella Fitzgerald, Il était une voix en Amérique. Et il vous raconte la suite.
Ella Fitzgerald, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle vient pas chanter. Elle vient danser, parce que sa première passion, c'est la danse. Elle va régulièrement, tous les week-ends, elle va au Savoy, dans les clubs de Harlem, en pleine Renaissance. Et donc, elle vient là pour danser. Sauf que ce soir-là, à la fin du show principal, il y a deux danseuses prodiges derrière le rideau. Elle se dit, c'est hors de question que je danse et que je me ridiculise après ces deux artistes fantastiques. Et donc, elle est poussée quand même sur scène. Elle arrive sous les projecteurs, micro, la foule fait monter la tension. Et là, d'un coup, elle se met à chanter une chanson qui s'appelle Judy. Et la magie opère. Le public est sous le charme et elle remporte le concours.
L'une des plus grandes voix du siècle est donc née sur un coup de trac et comme un réflexe de survie. Parce que le Harlem des années 30, c'était quoi ?
Allez, allez, allez.
De la musique partout, un bouillonnement culturel tous azimuts. On appelle cette période de l'entre-deux-guerres le Harlem Renaissance. La culture afro-américaine s'épanouit dans les théâtres ou les clubs. Et donc Harlem est le lieu du jazz. Au Cotton Club, le public blanc vient voir des artistes noirs. Louis Armstrong, Duke Ellington et cet homme-là, Cab Calloway. Au milieu de cette effervescence, Ella Fitzgerald est orpheline. Elle a perdu sa mère dans un accident de voiture, son beau-père là-bas.
Elle là, s'est retrouvée dans la rue, elle a fait des petits boulots parce que la crise de 29 est venue balayer aussi l'Amérique et donc on est dans les années 30 et beaucoup de gamins trouvent des boulots via la pègre ou ces réseaux-là et elle est là, elle travaille, elle a un petit job, elle fait la surveillance devant un hôtel de passe et elle prévient les filles si la police arrive et elle est arrêtée. Envoyée dans une maison de correction, alors les registres disent pour insubordination et rébellion. Elle va en fuguer très vite parce que c'est un établissement très rude, marqué par la ségrégation là aussi, et donc elle va s'échapper. Alors la légende dit par une corde faite en drap, et elle fugue. Et là elle rêve sous les néons éclatants de Broadway et de Harlem, elle rêve de devenir artiste. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs à ses copains, hein. Elle leur dit, vous verrez un jour, je ferai les gros titres, je ferai la une, je serai une star. Et bien évidemment, ce qui suscite les sourires dans son entourage.
Après avoir remporté le concours amateur à l'Apollo Theater, elle a repéré et présenté à l'un des rois de Harlem, c'est Chick Webb. Chick Webb est batteur. Il a ses quartiers avec son orchestre au Savoy Ballroom de Harlem.
On lui souffle que ce serait peut-être bienvenu d'avoir une chanteuse dans le groupe, dans le big band. Bon, pas franchement, les chefs d'orchestre à l'époque sont pas trop tentés par le fait d'avoir des chanteuses. Ils disent que ce n'est que des problèmes. Et Chick Webb dit, mais c'est hors de question. Enfin, il y a cette phrase, il dit, mais comment veux-tu qu'on mette ça dans le groupe? C'est terrible. Alors, des témoignages qui disent qu'elle sentait pas très bon, qu'elle avait pas une hygiène et une allure, une prestance, une aura qui était digne de ce que veut Chick Webb. Parce que Chick Webb, lui, ce qu'il veut à ce moment-là, hein, c'est pas seulement briller sur la scène du Savoy et des clubs locaux. Il veut conquérir les charts, conquérir les ondes et devenir une star nationale.
Et c'est ce qui va se passer avec Ella Fitzgerald. C'est elle qui est à l'initiative d'un premier succès. A Tisket a Tasket, une comptine pour enfants dont elle reconstitue les paroles. On est en 1938, la crise a laissé des séquelles. En Europe, on entend des bruits de bottes. Et on écoute Ella, parce que cette chanson avec cette voix, ce serait le printemps tout le temps. A Tisket a Tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh gee, I wish that little girl I could see. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was the joy of mine. A tisket, a tasket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow basket. A little yellow basket. Cette période-là, c'est la grande période du big band, c'est-à-dire des orchestres.
Ah oui, c'est ça, là on est vraiment l'époque phare, entre deux guerres, les années 30, là on est en pleine explosion de ce jazz rutilant qui a pris des sonorités de la Nouvelle-Orléans, les a embellis, sophistiqués, agrandis, déployés dans des orchestres d'une trentaine de pièces.
Et dans ce contexte-là, la vedette c'est l'orchestre justement.
Et oui, les chanteurs ils sont assis dans un coin. Et lorsque vient son tour, il se lève, il chante deux, trois titres et puis il retourne s'asseoir. Ce sont les grands solistes musiciens qui sont, eux, les vraies stars.
Mais elle va changer quand même le statut de la chanteuse de big band.
Oui, elle n'est pas la seule. On est à la même époque où Sinatra aussi jaillit et ils ont à peu près la même tendance comme ça à venir au devant de la scène. Et puis alors c'est une époque où les choses imbriquent. Hein, c'est l'apparition du microphone, par exemple, qui joue un rôle essentiel dans la place du chanteur parce qu'une intimité se crée, un lien direct avec le public qui peut s'établir. Et puis arrive aussi la Seconde Guerre mondiale qui va emporter beaucoup de musiciens sur le front. Et donc dégarnir les big bands, il devient difficile de subvenir aux besoins de tout un groupe et d'avoir suffisamment de recrues pour... S'ajoute à ça une grande grève menée par l'Union le syndicat des musiciens américains, interdisant aux musiciens d'aller jouer en studio tant qu'il n'y aurait pas de rétribution des labels pour les payer mieux que ça, puisque apparition de la radio, etc., donc nouveaux médias de masse, etc., donc il y a une vraie rente d'argent là qui ne revient pas aux musiciens. Donc, pénurie de musiciens, donc les labels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont enregistrer des chanteurs et des voix. Il y a une vraie évolution du paysage sonore avec la voix qui vient au premier plan.
Et elle, elle est là au bon moment, finalement.
Elle est là au bon moment et elle fait la démonstration aussi qu'à elle seule, une voix peut tenir l'avant-poste.
Elle ne doit pas sa voix pour avoir chanté à l'église comme beaucoup de chanteuses et chanteurs afro-américains de ces années-là. Elle ne doit pas sa voix à un enseignement familial. Dès 15 ans, elle était sans parents. Elle doit sa voix à son oreille, tout à l'oreille. Ella Fitzgerald imite ce qu'elle entend, les 78 tours que sa mère ramenait à la maison, et ce que diffuse ce truc fantastique qu'on appelle la radio. Là, nous ne sommes pas à la radio, mais au Ronnie Scott's, un club de jazz londonien. Ella Fitzgerald y donne un concert en 1974, et elle passe en revue tous les registres musicaux qu'elle aime. J'aime la musique classique.
Now that's one type. And then of course you've got the people.
Et puis bien sûr, il y a les gens qui aiment le bon vieux Dixieland. Et puis il y a des gens qui sont dingues de guitare. De nos jours, tout le monde a une guitare. Et ils aiment jouer
country and western.
De la country. Et puis il y a les gens qui aiment les groupes. Moi j'aime l'un des meilleurs groupes au monde, messieurs, dames. Et vous savez de qui je veux parler? Count Basie, donc.
D'emblée, elle a une approche de la musique dès sa plus tendre enfance, qui n'admet aucune barrière. Et ça restera, je crois, une constante de son parcours. Et elle va cultiver ça. Elle a une culture œcuménique de la musique. Et tout le monde peut s'y retrouver. Elle sait porter, je pense, mieux que personne, le caractère fédérateur de la musique.
Ah, mais t'es déjà dans l'escalier ?
Oui, je suis devant votre porte, en fait.
C'est trop... Attends, je t'ouvre.
Celle qui m'ouvre, c'est Marianne James, une voix et un visage que vous connaissez pour l'avoir vue sur scène ou à la télé. Elle a fait le conservatoire, suivi des cours d'interprétation d'opéra de Mozart et des leaders allemands. Avant, elle s'était dit aussi qu'elle serait bonne sœur, mais tout a été contrarié. Parce qu'elle a écouté Bessie Smith, Donna Summer, The Clash, ou Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, elle l'a eue dans l'oreille pour la première fois, grâce à Antoine Petrucciani, père de Michel Petrucciani, qui habitait en face de chez elle. Ça se passait à Montélimar et Tony Petrucciani lui fait écouter.
A foggy day in London town had me low. Ça, c'est une des deuxièmes ou troisièmes chansons que j'ai écoutées d'elle. Et je chantais ça avec l'accent de Montélimar, un peu chérette. A foggy day in London town. Mais il y a cette version que j'ai entendue. C'est Joey Pass à la guitare et Ella Fitzgerald. Voilà, tous les deux, tout seuls.
A foggy day in London town just had me low. had me down. I view the morning, view the morning with alarm. The British Museum had lost its charms.
Dans quelle mesure elle détonne, Ella Fitzgerald, pour vous?
C'est la plus libre. Quand une chanteuse, par exemple, écoute une autre chanteuse, si ça se passe mal, si le gosier de la chanteuse, de l'interprète est serré et tout, nous autres chanteuses, on boit son mal, on le ressent, on le connaît. Et ça nous angoisse. Et même le public, il ne mettrait pas des mots là-dessus, mais une femme ou un homme qui s'en sort pas de sa vocalise, bah, ça vous enroue. Mais quand tu écoutes Ella Fitzgerald, elle est toute jeune, j'avais peut-être pas les mots, mais je sentais cette joie. La joie, vraiment la joie. C'est en ça que pour moi, c'est la plus grande chanteuse, presque la moins malheureuse, parce que souvent les grandes chanteuses sont des destinées terribles, et on le sent dans leur voix. Hein. La Callas, justement Edith Piaf, celle qui chante Mercedes-Benz. Oh Lord, don't you buy me a Mercedes-Benz.
Janis Joplin.
Voilà, pardon. Il y a beaucoup de malheur, beaucoup de chagrin. Or, Ella, la grande Ella, elle a passé sa vie à conserver sa voix, mais tout en nous racontant avec son chant des choses vraiment profondes. Parce qu'on peut faire très attention à sa voix comme une chanteuse lyrique, mais on ne transmet rien. Écoutez un peu, ouhouhou, ma voix est bien placée. Tandis qu'Ella, elle est allée à fond dans les aigus, à fond dans les graves. Et hop, hop, on dirait un petit rossignol, elle monte tout là-haut. Puis elle s'amuse à faire Marilyn Monroe.
I can't give you anything but chi-chi. That's the only thing I've plenty of, chi-chi. Dream a while, scheme a while. Where should I find la 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 happiness? And I guess pretty see, to see. See you looking swell. Brrr. Diamond bracelets will wear dozen sell. La 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 la. Chi chi.
Elle a transformé sa voix comme la voix de Satchmo. Elle scattait avec lui pour faire des enfin tous ces trucs-là. Si je vous le fais devant le micro, je vais tousser dans 10 secondes. Je n'y arriverai pas. Et elle, en pleine scène, après 20 titres, avec son mouchoir en train de s'essuyer les yeux, là, derrière ses grandes lunettes. Et c'est parti, l'octave du grave. Elle chante plus grave que tous les messieurs réunis.
Looking sharp, yellow rose of Texas, Bob Singer, Nick Cash, boom, 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 by those blue suede shoes, Elvis, Elvis Presley, boom, 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 I'm all shook up.
Je vois pas qui pourrait faire quelque chose lié à la joie, non. Mais je n'en trouve pas d'autres, Sarah Vaughan ou Sarah Vaughan, non, Billie Holiday encore moins, et toutes les grandes chanteuses, non, non. En plus, quand elles sont heureuses à l'opéra, les chanteuses d'opéra, mais c'est parce qu'elles sont folles. Les grandes scènes de coloratour, de soprano coloratour, elles chantent la joie, mais généralement, c'est qu'elles ont eu un breuvage qui les a rendues dingues, c'est qu'elles ont perdu le mari, enfin, qu'elles prennent une vraie scène de folie. Généralement, il y a un couteau pas loin, mais après la scène de joie et de folie, boum, elles se trucident en direct sur scène, quoi. Non, mais c'est vrai, la vraie joie, à part chez Offenbach, mais ce n'est pas cette... La pure joie, j'ai envie de dire, non masquée. L'exaltation de l'âme, je ne sais pas comment on pourrait dire.
Alors on pourrait utiliser les mots de Christiane Taubira, qui, en conclusion d'un texte publié dans Le Monde en août 2018, évoque Ella Fitzgerald, mais dans son art de la ballade cette fois. Elle cite son interprétation de Cry Me a River. Cette chanson, dont les paroles sont « Tu me disais que l'amour était trop ordinaire. Maintenant, tu dis que tu m'aimes. Bien, tu n'as qu'à le prouver. Pleure. Pleure-moi une rivière, comme j'en ai pleuré pour toi. » Et Christiane Taubira écrit « Écouter Cry Me a River par Ella Fitzgerald et se dire qu'un ciel existe et que vous seul en détenez la clé. » Ce matin, Pop & Co est dédié à Ella Fitzgerald. Quand on lui demandait comment elle avait évité les drogues ou sombrèrent Billie Holiday, Dinah Washington ou Judy Garland, elle répondait « Je crois que les femmes ont plusieurs sortes d'embûches à déjouer. Nous avons toutes des faiblesses cachées. Pour ma part, j'étais un peu trop romantique. » Et voilà un général qui n'a pas péché par romantisme, je crois.
Paris, Paris outragé. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Nous sommes donc en 1944 et Ella Fitzgerald va être l'une des voix de la bande-son d'après-guerre. La chanson s'intitule Flying Home et Ella se met à improviser sur un thème de Lionel Hampton. Son inventivité est totalement raccord avec l'humeur de l'époque. Les boys rentrent à la maison, l'économie repart, l'avenir s'annonce réjouissant. Ella Fitzgerald, incarnation vivante de ce qu'on appelle le scat. Le scat, définition, par Steven Gézovanier, auteur de la biographie Ella Fitzgerald, il était une voix en Amérique.
Tout cet art vocal, hein, de la syllabe, où les mots se débarrassent du sens, pour ne plus devenir que musicalité. C'est un jeu d'assonance, d'allitération comme ça, qui font résonner la mélodie et lui donnent toute une... Et qui montre aussi que la voix est un instrument à part entière.
Et revoici Marianne James.
Et puis on sent qu'elle est connectée à un geyser de notes. Je pense qu'elle a au moins 3 octaves, si ce n'est pas 3 octaves et demie, ce qui s'appelle une immense voix. Et détail qui tue, dans ses vieilles années, quand elle a continué à chanter, elle chantait ses grands tubes dans la même tonalité qu'à ses 20 ans. Donc en plus, malgré la ménopause, malgré sa vie, ou grâce à sa vie, cette femme ne s'est pas abîmée. Et pourtant, c'est n'être jamais chez soi, des décalages horaires en permanence, chanter dans des salles enfumées à l'époque. Franchement, il y avait tout pour se bousiller la vie, la voix. Donc son corps lâche par petits bouts, on va dire. Mais la voix reste intacte. Et la voix, c'est l'âme. Donc cette femme, c'est une immense femme.
Même si le journaliste Stephen Holden du New York Times écrit que ce morceau Flying Home est l'un des enregistrements vocaux les plus influents de la décennie, au milieu des années 40, Ella Fitzgerald va être regardée un peu de haut, parce qu'elle incarne le monde d'avant, le jazz d'avant-guerre, le swing, tandis qu'une nouvelle génération arrive pour faire péter tous les carcans.
Et puis Mo Gayle, qui est son manager à l'époque, a l'idée de l'associer aux premiers boppers, quoi, les premiers adeptes du bebop, à commencer par Dizzy Gillespie. Et là, elle est fascinée par cette nouvelle musique et elle va s'y plonger complètement sous l'influence de Gillespie, qui est marquée par une chanson phare, hein, Oh Lady Be Good. Et c'est là que Gillespie lui dit, mais viens, souffle là-dedans, vas-y, envoie. Il lui dit même pas chante, il dit viens et souffle. Souffle comme si elle était un instrument elle-même. Et donc elle va se laisser aller à l'impro avec un tempo dingue, 200 à l'heure et qui sont tout à fait dans la lignée de cette musique telle que l'aperçoit Dizzy Gillespie et qui lui dit toute musique reflète son époque. Et moi mon époque est celle d'une après-guerre furieuse. Et elle reflète effectivement une furieuse envie de vivre. Elle va réussir à s'associer à la nouvelle génération, à l'incarner pleinement, et même à diffuser et prôner de nouvelles approches de la musique, libérées, sans contraintes, et hop, du coup, entrer dans un nouveau chapitre de sa carrière. L'image du jazz évolue. Aussi à cette époque-là, le jazz était dans les années 20, 30, vraiment des coins mal famés, l'allée du swing, tout ça, de clubs tenus par la pègre, où on venait effectivement s'encanailler. Puis il y avait dans l'imaginaire collectif américain aussi beaucoup d'éléments issus des stéréotypes qui affectaient la communauté afro-américaine, d'associations, d'idées avec la drogue, la sexualité, etc. Et donc tout ça a beaucoup entaché l'image du jazz, jusqu'à ce qu'effectivement, et là, et d'autres, hein, bien sûr, contribuent à son épanouissement tel qu'il est vraiment, et à apparaître dans toute sa flamboyance et dans toute sa respectabilité aussi.
Mais dans le même temps, les Afro-Américains continuent de subir les lois ségrégationnistes de l'Amérique raciste.
Au micro, Edith Lansac qui vous présente « Le monde est à vous », une émission du journal Parlé et des services artistiques de la radiodiffusion Télévision Française.
Nous sommes alors le 1er juin 1963 et...
Robert Cézé était l'envoyé spécial du Monde est à vous à Birmingham.
Pour Joyce Neely, étudiante noire de 16 ans, même si l'on obtient des diplômes dans ces bonnes écoles, ils ne servent à rien. Si vous avez un diplôme de sortie d'un lycée et que vous cherchez du travail, votre demande sera automatiquement refusée parce que la couleur de votre peau figure sur les demandes d'emploi de l'Alabama. Le seul travail que vous puissiez faire est celui d'enseignant. Vous ne pourrez obtenir un emploi dans un grand magasin ou dans n'importe quel autre bureau de Birmingham. On ne vous emploiera pas parce que la couleur de votre peau est noire. D'autre part, Joyce Neely a été arrêtée il y a 3 semaines.
Quel que soit son statut, Ella Fitzgerald n'a pas été épargnée non plus. Si on s'arrête sur l'année 1954, elle doit se rendre en Australie pour une série de concerts. Elle fait escale à Honolulu au moment de remonter dans l'avion avec 2 autres Afro-Américains qui l'accompagnent. C'est non. La compagnie aérienne Pan American Airlines a donné leur place à des voyageurs blancs considérés comme prioritaires. Ella est bloquée 3 jours sur place et doit annuler plusieurs représentations. Et c'est le moment de vous parler d'un Californien, blanc, producteur, patron de label fondu de jazz, qui s'appelle Norman Granz. À cette date, 54, Granz est le conseiller artistique officieux d'Ella Fitzgerald. Norman porte plainte contre la Pan Am, quel que soit le coût du procès, et il obtient gain de cause. Qui était cet homme? Présentation par Steven Gézovanier.
Très tôt, en fait, il organise des petites jam sessions dans des clubs, qui étaient pourtant des clubs ségrégués, mais il obtient, voilà, les jours de fermeture, de lui organiser des jams. Et là, il installe des tables, et on vient plus danser sur la musique comme on pouvait venir danser à Harlem dans les grandes pistes de danse où le groupe est là pour être une animation musicale. Là, le groupe, on vient le voir, on vient l'écouter, on s'assoit et on écoute. Et je trouve que ça révèle assez bien sa vision, lui, et ce qu'il veut faire de cette musique. Et très vite, cette musique qu'il s'efforce, lui, de défendre et de lui donner toutes ses chances, en fait, en même temps, devient une arme pour lui, pour combattre la ségrégation. Et il a cette vocation de garder des cachets équivalents au traitement que peuvent avoir des artistes blancs. Il va dans les salles, pareil. Il exige qu'il n'y ait pas de traitement différent à la vente des places entre les noirs et les blancs. Parce qu'à l'époque où, voilà, les blancs viennent un certain soir, les noirs un autre soir, ou alors à 2 concerts différents, de 2 sets différents dans la même soirée, faut surtout pas qu'ils se mêlent, surtout pas. Et à Charleston, le premier concert où le public va pouvoir se mêler, c'est grâce à Ella et Norman Granz. L'œuvre qu'elle a avec Norman Granz est colossale. Non pas d'affirmation posée sur des podiums, mais d'œuvre dans l'ombre pour porter toute la dignité du jazz, d'entrer dans les plus grandes salles, les plus respectables devant les publics. Il y a des témoins qui disaient qu'à New York, dans les beaux quartiers, il fallait mettre toutes ces hermines et ces plus beaux manteaux de fourrure et être là pour les premières d'Ella Fitzgerald. Voilà, il fallait être vu là.
De New York, on file à Los Angeles avec l'une des grandes fans d'Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe. En mars 1955, Marilyn apprend qu'Ella Fitzgerald doit se produire au Mocambo et que ce club de Los Angeles lui ferme ses portes. Alors, Marilyn passe à l'action.
Elle décroche son téléphone et appelle directement le proprio du Mocambo en lui disant « Écoute, laisse Ella venir et en échange, je te promets une chose, c'est que je serai là tous les soirs, je serai là assise à la table de devant et tu verras, là, la presse va se masser, tu auras une pub comme jamais. » Effectivement, Marilyn Monroe est là, Sinatra aussi est là, Judy Garland, etc. Donc, tous les admirateurs d'Ella, et aussi combattants pour les droits civiques et contre la discrimination et la ségrégation. Et là, il va, triomphe, si bien qu'elle va être prolongée.
En 1955, la veille de Noël, Norman Granz décide de créer un nouveau label de jazz pour qu'Ella puisse s'y épanouir à sa juste mesure. Il va le baptiser Verve Records. Et sur le site de Verve aujourd'hui, ses successeurs écrivent « Norman n'aurait pas pu trouver meilleur mot pour évoquer la vigueur, l'espoir et l'enthousiasme qui anime le monde du jazz ». L'enthousiasme, il est aussi dans le rock'n'roll, avec l'apparition d'un gamin qui s'appelle Elvis Presley. Alors Norman Granz passe à l'action.
Et il a l'idée, à contre-courant, d'aller chercher dans le Great American Songbook, donc dans son répertoire traditionnel américain qu'on va enterrer, qu'on est sur le point d'enterrer en 55 avec l'arrivée du rock'n'roll, et lui va dire, non, il faut qu'on aille chercher les grands compositeurs américains, parce que c'est pas que de la variété. C'était pas que des tubes fabriqués comme ça pour les débuts de la radio, c'était des grands airs qui avaient une dimension patrimoniale, culturelle, qu'il faut défendre. Et en disant surtout que cette musique composée à New York, dans la filiation des compositeurs européens, elle a autant de valeur que le jazz, et le jazz a autant de valeur que les autres, et elles ont une valeur toutes, et que ces musiques se parlent comme doivent se parler les communautés.
Norman Granz participe à l'invention même de ce qu'est un album aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire plus de compiles de chansons, mais un ensemble cohérent, construit autour d'un auteur. Et Ella Fitzgerald enregistre un double album entièrement dédié à Cole Porter.
Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it.
Et Ella contient son instinct d'improvisatrice pour se mettre au service des chansons de Cole Porter. Une fois l'enregistrement terminé, Norman Granz rend visite au compositeur dans sa suite personnelle du Waldorf Astoria à New York. Cole Porter termine d'écouter, il marque un long silence et finit par lâcher. Quelle diction elle a! Ella Fitzgerald se réinvente encore. Sa carrière est relancée et le label Verve, au départ créé pour elle, s'installe dans l'histoire du jazz en accueillant Billie Holiday, Oscar Peterson, Duke Ellington, Roy Eldridge, etc., etc. Norman Granz décide aussi de réunir Ella Fitzgerald et Louis Armstrong pour un album qui va s'intituler Ella and Louis. Rien que la pochette raconte la simplicité de l'affaire. Ils sont assis tous les deux sur des sièges pliants comme de touristes au camping. Louis Armstrong a des chaussettes blanches roulées sur ses chevilles, bras croisés, trompette posée sur les genoux. Et Ella Fitzgerald a un sourire timide et les mains dans son giron. Tout s'est fait rapidement, sans répétition. Oscar Peterson, qui les accompagne au piano, apprend les chansons au pied levé dans le studio. Et voilà.
France Inter, Bob & Co, Rebecca Manzoni.
Ensuite, avec Louis Armstrong aussi, il y a l'enregistrement de Porgy and Bess. Déjà, c'est quoi cet opéra ?
Gershwin, justement, va intégrer du ragtime, du jazz, des musiques de la Nouvelle-Orléans, des berceuses aussi, et beaucoup infusé dans son opéra, fait un mariage de l'héritage du classique européen avec l'héritage jazz et afro-américain, et être le premier opéra, en plus avec un casting intégralement d'artistes noirs. Alors, il y a eu a posteriori des critiques disant que bon voilà le thème était quand même sur des stéréotypes, la pauvreté, sexualité, drogue, violence, etc. C'était l'intention de Gershwin de refléter aussi une réalité sociale, une souffrance sociale d'une communauté, d'une partie du peuple américain. Donc révolutionnaire en cela, à la fois par le casting et par la composition et le sujet des paroles, donc triplement. C'est pas anodin lorsque Louis Armstrong et Ella Fitzgerald vont être les deux voix qui vont synthétiser toutes les voix de cet opéra et sublimer ses chansons, à commencer par Summertime, évidemment.
La vie d'Ella Fitzgerald est quasi entièrement dédiée à la scène. Cette vie, c'est 48 à 50 semaines de concerts par an. Et quand elle interprète des chansons d'amour, on a la sensation qu'elles sont dédiées au public d'abord. En 1960, elle se rend à la Deutschlandhalle de Berlin et...
Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. Since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a spread. Fancy gloves though, wear
décidé de chanter une chanson, de reprendre un titre de l'opéra de Katsu, écrit par Bertolt Brecht, Mac the Knife. Bobby Darin a déjà repris ça, on a fait un succès. Et elle doute, elle dit oh, je vais perdre les paroles, je vais perdre les paroles, c'est sûr. Bon, bah finalement, ça arrive, elle perd les paroles. But it was the swinging tune, and it's a hit soon. So we tried to do Mac and Knife. Oh, Louis Miller, oh, something about cash. Et donc elle se lance dans une impro, et ça, elle est toute sauvée par ça, parce qu'elle a ce sens dingue, sans perdre la moindre mesure, sans perdre le fil de la musicalité, rien. Elle se lance dans une impro où elle va citer Louis Armstrong, Bobby Darin, etc. Dire, oh, et là, bah, après tout cela, bah, Ella est en train de faire un naufrage de cette chanson, de Mac the Knife, et donc c'est la catastrophe, mais tout le monde lui fait une ovation, et elle va finalement intégrer ça à son set, tel quel, et continuer de chanter le Mac the Knife raté, entre mille guillemets, dans les concerts suivants.
Grammy Awards, qui sont à la musique américaine ce que sont les Oscars au cinéma, les Grammy donc, sont créés en 1958. Et Ella Fitzgerald est la première femme afro-américaine à en remporter deux cette année-là. Jusqu'à la fin de sa carrière, elle en récoltera 13 en tout.
Et Duke Ellington, il a une formule tout à fait juste pour dire ce qu'est la musique d'Ella Fitzgerald. Il dit elle a atteint le jazz total.
Le 16 juin 1996, il est 13h sur France Inter.
Depuis hier, depuis qu'on a appris la mort d'Ella Fitzgerald, le timbre si doux de sa voix trotte dans la tête de millions de personnes dans le monde. Ella Fitzgerald avait donné ses derniers concerts en 1990. Au cours des dernières années de sa vie, elle fut opérée des yeux, du cœur. Il y a 3 ans, à cause de son diabète, elle fut même amputée de 2 jambes. Mais jusqu'au bout, elle n'a pas ménagé ses efforts pour aider les autres, et notamment pour venir au secours des enfants.
Elle a fait la démonstration que on pouvait produire le plus beau sans cultiver l'autodestruction, la douleur. Non pas que ce ne soit pas pertinent en musique, hein, loin de là, mais elle a montré une autre voie, qu'on pouvait être... voilà, elle n'a pas eu d'excès. De toute façon, c'est quelqu'un qui était extrêmement humble, mais vraiment toute sa vie, avant chaque concert, après 40 ans de carrière, elle en est encore à se dire oh là là, est-ce qu'ils vont m'aimer ? Elle trépigne, elle est bouffée de trac. Et même à la fin de sa vie, elle a ce truc, elle se demande encore, elle discute avec son ancien road manager, elle est chez elle dans sa propriété à Beverly Hills, là dans le jardin, elle ne chante plus, hein, parce que bon, elle est toujours à se demander, mais comment ça se fait ? Pourquoi moi ? Et puis après réflexion, elle s'arrête et dit, ah bah si, je sais, mais si, je sais, c'est les chansons, ça ne peut être que ça. A foggy day. London town.
saw you there, and through foggy London town, the sun was shining everywhere, everywhere.
Ella Fitzgerald, Il était une voix en Amérique, c'est le titre de la biographie signée Steven Gézo Vanier et publiée par les éditions Le Mot et le Reste. Je vous recommande aussi Le son de l'Amérique, cette fois, dédié au label Verve Records, fondé par Norman Granz. L'auteur, c'est Richard Havers. L'éditeur, c'est Textuel. Quant à Marianne James, que vous avez entendue dans cette émission, elle reprend sa tournée avec un spectacle pour les petits et pour les grands qui s'intitule Tati Jambon. Elle sera à Vittel le 5 juin, à Saint-Dizier le 6 et au Théâtre Traversière à Paris les 26 et 27 juin, avant d'y revenir au mois de décembre. Une chanteuse américaine encore, inspirée par jazz, blues et soul. Vous l'entendez en ce moment sur France Inter avec ce titre, Call Me a Fool. Elle s'appelle Valérie June.
Call me a fool.
The Moon and Stars, Prescription for Dreamers, c'est le titre du nouvel album de Valérie June. Goyenne Guyenne a réalisé cette émission avec Pierre Faucillon ce matin, Ilinka Negulesco trouve la doc et les sons, et JB Audibert s'occupe de la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Berger, prénom Michel. À samedi!